Congrès Mission 2021. Congrès
Mission 2021.
Congrès Mission 2021, table ronde.
Nous allons à présent laisser la parole aux intervenants. Isabelle Galkin qui va animer cette table ronde.
Merci Laurence, merci à l'accueil que nous réserve le Congrès Mission. Merci à vous tous qui êtes venus, parfois de loin, pour entendre donc ce que nos invités ont à nous dire sur le thème de la piété populaire. Alors je vais commencer bien sûr par présenter les personnes qui sont là ce matin. Père Vincent Cabanac, bonjour.
Bonjour.
Père Vincent, vous êtes originaire du Tarn et vous êtes religieux assomptionniste et vous êtes depuis 4 ans directeur du pèlerinage national de Lourdes. Avant cela, vous avez été rédacteur en chef du Pèlerin, toujours une histoire de pèlerinage. Et puis vous êtes vraiment, plus qu'un habitué. Ça fait 30 ans que vous fréquentez le pèlerinage de Lourdes. À vos côtés, Philippe Faureau, bonjour. Philippe, vous êtes toulousain. Vous n'êtes pas venu de très loin. Vous êtes professeur agrégé, maître de conférences en histoire contemporaine à l'université Toulouse de Jean Jaurès. Et puis je viens d'apprendre que vous êtes aussi enseignant au séminaire Saint-Cyprien. Voilà. Donc vous êtes diacre permanent et pour le diocèse de Toulouse. Et donc avec vous, on va remonter dans l'histoire aux origines de la piété populaire. À ma gauche, Catherine Gaiotto, bonjour. Catherine, vous venez de Libourne, en Gironde.
Oui.
Voilà, pas très loin de Bordeaux.
C'est très bien situé, entre Bordeaux et Saint-Émilion.
Et dans votre paroisse de Libourne, donc qui s'appelle Saint-Jean-Baptiste, vous avez fondé, à la demande de votre curé, la confrérie de la Sainte-Épine. Pourquoi ? Parce que dans votre église, il y a donc une épine de la couronne du Christ.
Voilà. Depuis très longtemps, depuis l'année 811, qu'elle est dans cette paroisse, parce qu'elle n'a pas toujours été dans cette église.
Voilà, alors on va faire un petit peu d'histoire, mais surtout on va voir comment vous vous servez de cette relique pour évangéliser, donc pour la mission. Et puis vous êtes également membre d'un observatoire de la laïcité, et ça c'est un peu unique en France, qui a été créé à la demande d'un enseignant d'un établissement public, un enseignant en histoire, vous nous raconterez. Alors, rapidement, en quelques mots, parce qu'il faut savoir un petit peu de quoi on parle, je vais demander à chacun de nos invités de donner une petite définition de la piété populaire. On commence avec vous, Philippe Faureau.
Oui, vous avez raison, il faut essayer de définir peut-être les termes dont nous allons parler. Alors, il me semble que la piété populaire pourrait se définir de deux manières. D'abord, une piété qui rassemble du monde. Populaire au sens d'une massification d'une piété. Un pèlerinage peut rassembler d'un roi de France jusque à des paysans, et donc c'est populaire au sens où ça rassemble du monde. Et puis je crois que les historiens se sont intéressés aussi à une autre définition de la piété populaire. C'est une piété qui vient de la base, qui vient finalement d'initiatives dont les origines sont souvent plus ou moins connues, qui peuvent remonter extrêmement loin, et peut-être que j'y reviendrai tout à l'heure si on me le permet, qui posent problème à l'Église.
Père Vincent Cabanac.
Alors je parlerai aussi d'une dimension communautaire, dans le sens où ce qui est un acte personnel vécu avec d'autres permet de construire une communauté. Je parlerai aussi d'une communion qui permet à tout un chacun, quel que soit, je ne voudrais pas qu'on réduise à populaire à ceux qui ne seraient pas éduqués, ce qui n'est pas le cas à mes yeux. Et le troisième point, c'est de dire que c'est une piété qui des fois s'exprime sans mots, mais aussi avec des gestes, mais qui ont une expression forte et qui permettent ainsi de rallier tous ceux qui sont loin ou près de l'Église.
Catherine Gaillotot, pour vous, la piété populaire, qu'est-ce que c'est ?
Oui, alors je suis d'accord avec tout ce que vous dites et j'arrive en troisième position, il faut que je dise quelque chose. Moi, je pense que c'est quand même une expression de la foi. Parce qu'un groupe, en vénérant des reliques, prolonge sa vie religieuse, mais ça ne la remplace pas. Ensuite, ce regroupement de personnes, ça invite, ça entraîne à la prière de soutien et d'espérance. Sinon, évidemment, je suis d'accord, je ne vais pas répéter les mêmes choses.
Merci déjà à vous trois pour avoir un petit peu situé la question. Père Vincent Cabanac, vous revenez quasiment, c'était autour du 15 août, donc du dernier pèlerinage national à Lourdes. Alors déjà, c'était un exploit de pouvoir le réaliser dans les circonstances actuelles. Et puis, on va essayer d'en parler du côté de cette notion de piété populaire.
En effet, nous avons pu tenir l'an dernier un pèlerinage, mais qui avait été frustrant puisque nous n'avions pas de malades. Cette année, nous avons pu rallier à la fois 3000 pèlerins, dont 300 malades. Et cela a été vraiment autour d'eux quelque chose de très important. Vous savez qu'à Lourdes, après les apparitions de 1858, même si Marie n'a rien dit sur les malades sont tout de suite venus. Et donc il y a eu une attente très forte. Et je pense que, justement, c'est le premier point que je veux souligner, c'est que ce sanctuaire où Marie a dit qui elle était par l'action divine est devenu aussi un sanctuaire où on ralliait un grand nombre de personnes marquées profondément dans leur chair. D'où beaucoup de signes liés à cela. La deuxième chose, c'est que ce pèlerinage a été aussi vécu comme un temps de ralliement autour de la fête de l'Assomption qui a permis à d'autres pèlerins, et c'est ça je pense aussi qui est important, Lourdes est à la fois le lieu qui accueille ceux qui ont déjà beaucoup de foi et qui peuvent accomplir ainsi un ressourcement dans leur vie chrétienne. Beaucoup d'hospitaliers, de malades et de personnes qui viennent avec nous le disent. Mais il y a aussi ceux qui sont, pas simplement des néophytes, mais un peu des éloignés, mais qui se trouvent suffisamment à l'aise à Lourdes pour vivre cette communion. Parfois en observateur, parfois aussi en grand participant.
Père Vincent, à Lourdes, on touche le rocher.
Un peu perturbé actuellement.
on allait aux piscines, on boit ou on récolte de l'eau de source. C'est pas l'eau qui est miraculeuse, mais tout ça passe par le corps, c'est très sensible, mais ça touche tout le monde. Tout le monde effectue ces gestes-là. Quand on parle de piété populaire, en fait, quand on vient à Lourdes, on vient de toutes les classes sociales et donc on effectue les mêmes gestes.
Mais nous savons bien, et c'est justement une des questions, dans l'expression de notre foi, on aurait tendance à dire tout vient de la tête. Tout se communique par la bouche, mais nous sommes un être qui a différentes dimensions, à la fois notre intelligence, notre cœur, notre esprit, mais aussi notre corps. Et donc, comment arrivons-nous justement à dire notre foi aussi par l'expression de notre corps ? Il y a des attitudes, mais il y a aussi des relations. Et il suffit d'ailleurs aussi de parcourir les évangiles, et des fois, en ne retenant pas simplement les paroles de Jésus, mais est-ce qu'on lit les évangiles en regardant les gestes de Jésus ? Comment il établit une relation avec un regard, avec un geste de la main, avec une disposition, avec une réaction, avec un geste de ceux qui le touchent ? Donc il y a aussi ces signes, ces gestes qu'il faut intégrer comme expression de notre foi. Et à Lourdes, ces gestes, ces signes sont liés parce qu'il y a la matérialité du rocher, la matérialité de l'eau, même si c'est assez fluide loin, mais il y a aussi toute cette dimension aussi de la lumière. Donc chacun des signes exprime une part du mystère et de la foi.
Avec vous, Philippe Faureau, donc on remonte le temps, hein, puisque vous avez travaillé sur cette question de piété populaire jusque dans l'Antiquité. Hein. On peut faire un parallèle entre Delphes, Éphèse et Lourdes.
Oui, je voudrais insister effectivement sur l'idée que la piété populaire ne naît pas avec le christianisme. La piété populaire vous la retrouvez dans le monde polythéiste. Il y avait une piété populaire dans la Gaule pré-romaine. Il y avait une piété populaire dans le monde gréco-romain. En 2017, dans mon cours Religion et culture, avec un collègue spécialiste de la Grèce, nous avions été à Lourdes. Et nous avions fait visiter le sanctuaire aux étudiants. Et ils devaient faire un travail, faire une comparaison entre Lourdes et les grands sanctuaires grecs. Car il y a des points communs. Les ex-voto. Les archéologues retrouvent des ex-voto dans les sanctuaires antiques, où l'on voit une jambe, un bras, un sein, un sexe, qui sont déposés en remerciement à la divinité. De même, l'eau. Beaucoup de sanctuaires antiques ont l'eau, comme à Lourdes. Donc l'eau est quelque chose, effectivement, qui traverse l'histoire, en l'occurrence. Et je voudrais prendre un exemple précis, parce que, par rapport à cela, l'Église a cherché à christianiser ces lieux, des fois. Par exemple, dans le département du Vaucluse, il y avait un sanctuaire gaulois, mais qui a continué avec la présence romaine, où l'on priait un dieu qui s'appelait Grossalos. Eh bien, l'Église a construit une chapelle qui est devenue aujourd'hui Notre-Dame de Grosso et qui est liée à un très très ancien culte. Et enfin, dernier exemple que j'aimerais vous donner, mais qui m'a semblé éclairant, écoutez ce que l'historien Sulpice Sévère, à la fin du IVe siècle, qui a écrit une vie de Saint-Martin. Écoutez ce qu'il nous dit des paysans gaulois. Les paysans gaulois avaient coutume de porter en procession, à travers leurs champs, des idoles couvertes d'un voile immaculé. Vous ne trouvez pas que... Il y a tout de même un formidable lien, parce que est-ce que ce n'est pas l'ancêtre des rogations dans les champs avec une statue de la Vierge ? Et nous sommes à l'époque gauloise.
Des rogations qui, aujourd'hui, sont remises au goût du jour. Hein. On peut assister aujourd'hui de nouveau à ce type de piété.
Voilà. Mais qui, j'y insiste, remonte avant même le christianisme. Ouais.
On arrive au christianisme avec vous, Catherine Gaiotto. Vous travaillez à Libourne, à l'évangélisation, avec comme support une épine de la couronne du Christ. Alors, des épines, il y en a d'autres. Il y en a une à Saint-Cernin, hein. Il y en a d'autres en France. Il y en a à Perpignan.
Il y en a à Perpignan.
Puisque tout récemment, vous étiez...
Notre confrérie s'était placée à Perpignan.
Donc, c'est vous qui avez retrouvé cette épine, qui avait été reléguée
Je l'ai retrouvée, oui, en ouvrant le coffre. Elle était au fond d'un coffre. Et je l'ai retrouvée il y a 11 ans maintenant, en mettant un petit peu d'ordre, justement, dans ce coffre, à la demande du curé de la paroisse. Et je trouve une châsse au fond, là, posée. Et... je me dis, mais qu'est-ce que c'est ? Je vous assure, ça m'a interpellée. Je me dis, qu'est-ce que c'est ? Et je fais une petite enquête, je fouille dans les archives, et j'ai appris que c'était une épine de la couronne du Christ. Ça vous pose question, quand vous n'êtes pas préparé à trouver ça, hein, je vous assure. Et j'ai commencé, moi, à la sortir à la demande de groupes de visiteurs qui venaient visiter l'église. Je leur sortais l'épine et je commençais à leur raconter l'histoire que j'avais reconstituée. Je vous avoue qu'aujourd'hui, je ne dis pas la même chose que je disais il y a 11 ans, il y a 10 ans, il y a... Je crois que moi-même, j'ai dû m'évangéliser en évangélisant les autres. J'ai évolué, j'ai grandi avec cette épine. Je crois qu'une relique, c'est particulier, surtout celle-ci. Elle a touché le Christ, elle nous rappelle ses souffrances, comme nous disions, et nous-mêmes, on a tous nos souffrances par moments. Et je trouve qu'elle m'a aidée à prier, et je crois que j'ai aidé les autres à trouver un chemin auprès de cette épine.
Est-ce que vous avez une anecdote qui vous vient, une petite histoire donc d'une personne qui serait venue
Bon, j'ai plein d'anecdotes, vous savez, voilà, à 11 ans, j'ai plein d'anecdotes, c'est difficile. Bon, par exemple, j'ouvre l'église quand il y a Festard. Festard, c'est des arts de la rue, c'est la municipalité qui organise ça. Mais moi, j'ouvre l'église parce que, voilà, je suis là, c'est début août, j'ouvre l'église, je sors l'épine et j'ouvre l'église. Et j'ai des gens qui viennent, je reçois en 2 jours 1300 personnes. Je ne devrais pas dire je reçois parce que je ne leur parle pas à tous, ce n'est pas possible. Mais j'essaye de repérer justement ceux qui n'ont pas l'habitude de rentrer dans une église, et ça se voit. Et donc, je m'avance plutôt vers eux et je leur fais une petite visite et je les amène devant la chapelle de la Sainte-Épine et je leur en parle. Et là, j'ai toutes sortes de réactions. J'ai ceux qui me font « bon, c'est tout ». Et puis, il y a ceux qui me disent, qui tombent à genoux, j'en ai un, il est tombé à genoux une fois. Et puis, il s'est relevé, il m'a dit, excusez-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Et ce monsieur, je le revois chaque année à Festard. Bon, je vous dirais que ça fait 2 ans que je ne l'ai pas vu, parce qu'il n'y a pas de Festard en ce moment, mais à cause du Covid. Mais, et chaque année, il revient me voir, puis il me dit, parlez-moi, racontez-moi, dites-moi. Bon, eh bien, écoutez, j'en ai un comme ça. Eh bien, moi, je vous assure que ça me fait du baume au cœur. Et j'en ai d'autres comme ça. J'aurai plein d'anecdotes à vous raconter.
Merci, Catherine. Père Vincent Camalac, comment vous réagissez à cette histoire, cette anecdote d'un homme qui dit « Je suis tombé à genoux devant l'épine, je ne sais pas pourquoi, je ne connaissais rien de l'histoire. » Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Il y a, je pense, chacun de nous a pu parfois vivre cette expérience ou la voir en un sanctuaire lourde et significatif de cela, parce que on peut y venir avec plusieurs dispositions. J'ai évoqué la figure des malades, on pourrait évoquer ceux qui accompagnent les malades ou ceux qui en prennent soin. Et dans cette rencontre, des fois un peu inopinée, inattendue, dont certains, même s'il y a une propension à vouloir servir, il y a vraiment la rencontre que le Seigneur permet, par l'intermédiaire de sa mère, entre lui et un croyant qui est en chemin. Et c'est justement pour cela, je pense, en quoi les sanctuaires, et sans doute on en aura d'autres images, sont un peu des lieux de ralliement où, soit parce qu'on y marche, Saint-Jacques-Compostelle, soit qu'il y a un chemin qui y mène, soit parce qu'on y reste plusieurs jours, comme à Lourdes, soit parce qu'on y va fréquemment pour prier, des sanctuaires qui peuvent être dans nos villes, il y a un peu ce goutte à goutte qui a un effet en nous, qui nous imprègne, hein, et qui fait qu'à un moment donné, on est touché. Je vais donner une anecdote. Comme vous dites, ça fait longtemps que je vais à Lourdes, et il y a tous les ans une nouveauté. Et j'avais été ému profondément par l'attitude de personnes qui, parce que j'étais aumônier aux piscines, venaient aux piscines, faisaient un acte de foi. Et quand des personnes handicapées, c'était à la fois une personne ayant eu un accident et qui était en fauteuil roulant et qui avait foi qu'il puisse guérir jusqu'à ce qu'il découvre soit qu'il ait la guérison, soit qu'il puisse être guéri intérieurement et soulagé de ses souffrances. Mais le message le plus clair que j'ai reçu une fois, c'est d'un enfant sans qu'il dise un mot. C'était un petit garçon qui s'appelait Roméo, qui était dans un cocon parce qu'il avait une maladie dégénérative qui l'empêchait de pouvoir se tenir debout. Il avait 3 ans et il avait le visage illuminé d'un sourire. Et je me disais, avec mes yeux rationnels, mais quel contraste entre ce qu'il subissait et ce qu'il montrait avoir, entre ce dont il pouvait souffrir et ce qu'il vivait intérieurement au point de l'exprimer sur son visage. Et il a reçu le sacrement des malades, un enfant de 3 ans qui reçoit le sacrement des malades et qui malheureusement, quelque temps après, bon, mais qui a pu témoigner comme ça. Mais je crois que c'est ça aussi que nous découvrons dans le sanctuaire, et particulièrement à Lourdes.
Alors, vous dites effectivement que les personnes viennent parfois chercher une guérison, une guérison physique. Hein. Tout ça n'est pas magique. Et une sœur de Castres qui est dans la salle, je la remercie, me rappelait que Bernadette n'a pas été guérie de son asthme, en fait. Elle n'a pas été guérie de ses misères physiques. Elle a reçu cette mission, ce message. C'est important à rappeler.
Oui. Pour moi, il y a plusieurs choses. Bernadette a vécu une vie qui s'est achevée à Nevers relativement tôt, tout en ayant découvert aussi une vocation distincte de sa vocation de celle voyante. Hein. Mais est-ce que vous avez noté, une petite provocation, mais ce n'est pas du même ordre, il y a moins de personnes qui ont vu la Vierge à Lourdes que de personnes qui ont vu le Christ ressuscité. Il y a une seule personne qui a vu la Vierge à Lourdes. Une seule personne. Et cette seule personne, toute simple, on peut dire issue des milieux populaires, n'ayant pas l'apanage de diplôme, de reconnaissance sociale, etc., cette seule personne qui a eu l'apparition de la Vierge a eu suffisamment de conviction et de force intérieure et de ténacité pour que ce qu'elle avait reçu, elle le partage. Et depuis lors, justement, c'est devenu finalement un message reçu, accepté et approfondi. Je pense que des fois, nous avons besoin d'être sensibles aussi à cela, à ces messagers. Et dans la piété populaire, nous faisons attention, il peut y avoir cette attention portée à ces petits messagers non moins percutants.
Alors la piété populaire, parfois c'est un peu synonyme de danger, de risque. Est-ce que la superstition n'est pas très loin, la pensée magique, comme je le disais? Philippe Foureau, vous dites que ça gêne l'Église par certains côtés, la piété populaire. Catherine, vous m'avez dit en préparant cet entretien qu'il fallait vraiment veiller à ce qu'il n'y ait pas d'idolâtrie, hein, c'était le mot que vous avez employé. Alors je vous donne la parole, Philippe, pourquoi ça gêne l'Église?
Alors là, c'est effectivement un problème historique fondamental par rapport à la piété populaire. L'Église, dans sa longue histoire, a très souvent craint d'être débordée par des phénomènes qu'elle ne contrôlerait pas. Et il y a un mot qui est capital, qui apparaît très tôt dans le langage ecclésiastique, c'est superstition. Nous avons des textes mérovingiens, donc 6e, 7e siècle, où des évêques essayent de contrôler cette piété populaire en disant qu'elle est souvent liée au paganisme pré-chrétien. Au Moyen-Âge, un exemple précis, nous sommes en 1119. Guibert de Nogent, qui est un des très grands théologiens et érudits de l'époque, écrit un traité où il dénonce un culte qui s'est développé à Soissons de la dent de lait du Christ. Le petit Jésus a perdu ses dents, sans doute. Hein. Et donc, à Soissons, s'était développé le culte de la dent de lait du Christ. Et il fulmine contre cette pratique. Qu'il juge païenne. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a sans doute, au fur et à mesure du temps, et le père Vincent l'a évoqué un peu, une différence qui va se faire, je dirais, entre les intellectuels de l'Église et la piété populaire. Les historiens estiment que le grand effort de christianisation viennent des deux réformes, réforme protestante et réforme catholique. Et quand vous lisez au XVIIe siècle des textes de prêtres, de prélats, vous sentez bien qu'il y a là une volonté véritablement de contrôler cette piété populaire, parce que à leurs yeux, eux qui ont fait quand même des études, qui sont passés par les séminaires qui sont créés après le Concile de Trente et surtout au XVIIe siècle, il s'agit de lutter contre les habitudes. Je voudrais vous lire deux extraits juste. 1679, un curé du diocèse de Chartres, Jean-Baptiste Thiers, écrit un traité des superstitions. Il y a sujet de s'étonner que les superstitions soient aussi répandues dans le christianisme, qui est une religion toute de sainteté et de vérité, que nous les voyons aujourd'hui avec douleur, car enfin, elles trouvent créance dans l'esprit des grands. Ça, c'est pas très vrai. Elles ont cours parmi les personnes médiocres. Elles sont la vogue parmi le simple peuple. Et deuxième exemple, nous sommes en 1700. Un curé du diocèse d'Orléans qui dénonce des piétés populaires qu'il estime être superstitieuses. C'est un curé qui a laissé, si j'ose dire, un journal où il écrivait ses impressions. C'est un document assez unique d'ailleurs. Donc, curé en Sologne, nous sommes en 1700. Il parle des paysans de la région. Lorsqu'ils souffrent quelques douleurs, ils implorent d'abord Saint-Sulpice, qu'ils appellent Saint-Supplice, pour avoir du soulagement du supplice qu'ils endurent. Saint-Maur, quand ils ont des maladies de langueur et une grande agonie, pour les faire vivre ou plus vieux ou mourir plus tôt. Sainte-Perpétue, pour avoir du lait aux nourrices, qui sont taries. Saint Corneille, lorsqu'ils sont noirs et défigurés par rapport à la corneille, qui est un oiseau sec et tout noir. Et ce curé de Sologne dit, c'est une piété populaire scandaleuse, parce qu'elle est, elle est finalement plus liée à un paganisme, à une superstition, que au christianisme. Et ça, historiquement, c'est important, c'est que pendant fort longtemps, et encore à l'époque contemporaine, l'Église, je dirais, s'inquiète des fois. Et le père Cabanac nous a parlé de Lourdes, mais savez-vous que dans le Comminges, en 1859, dans la commune d'Arnaud-Guillem, il y a un phénomène, disons, d'apparition mariale. Lourdes a été reconnue, et pour des raisons divers et variés, Arnaud-Guillem, pas du tout. Pourtant, on est à un an de distance. Parce que l'Église, effectivement, et ça c'est un grand problème que les historiens ont essayé d'analyser, se méfie d'être débordée par la superstitio, comme l'on disait.
Okay. Je me tourne vers vous, Catherine Gaiotto. Oui. Vous parlez de risque d'idolâtrie. Oui. Comment vous gérez la question quand, par exemple, quelqu'un veut absolument toucher la vitre en disant « voilà, je serai peut-être guérie si je touche ». Comment vous, avec vos moyens, comment vous faites ?
Alors, déjà, on ne peut pas la toucher parce qu'elle est dans un reliquaire sécurisé qu'a offert la mairie. Donc, on ne peut pas la toucher. Mais ça m'est rarement... Non, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé. Peut-être ça vient dans la façon dont je le présente. Par contre aussi, ce qu'on me dit, par contre, c'est... Pouf, vous y croyez, vous, ce n'est pas vrai. Pensez, cette épine, ce n'est point une épine. Ça, oui, je l'entends. Ben là, je leur dis, écoutez, peut-être, ça n'a pas d'importance. Ça m'est arrivé de raconter une anecdote, par exemple, de dire, vous savez, quand j'étais petite, j'allais en vacances chez mes grands-parents. À l'époque, il n'y avait pas de télé, même pas de radio. Et le soir, il y avait le feu de cheminée. Et mon grand-père s'asseyait, je le revois encore là, ma grand-mère là, lui lisait le journal en le commentant. Ma grand-mère faisait de la couture. Et moi, c'était le seul moment de la journée où j'avais le droit de toucher les braises. Donc, je tisonnais le feu. Et ma grand-mère était assise, elle relevait ses jambes sur un petit tabouret, je ne sais pas si vous voyez, les pieds torsadés, de la paille dessus, enfin bon. Et un jour, en me promenant chez un antiquaire, je suis tombée à l'arrêt devant ce tabouret. Et j'ai dit, moi, c'était le tabouret de ma grand-mère. Je n'en suis absolument pas sûre, parce que ma grand-mère, son tabouret, je ne sais pas où il a été. Mais moi, j'ai eu la même émotion. Je me suis retrouvée assise, entre mon grand-père et ma grand-mère, j'étais avec eux. Et quand je vois l'épine, je ne sais pas si c'est vraiment une épine, je ne pourrais pas vous le jurer, vous le promettre, vous le certifier, parce que bon, elle a fait du chemin depuis. Mais j'ai la même émotion, je suis au pied de la croix. Je ne suis pas devant l'épine, je suis au pied de la croix. Je suis devant Jésus. Et quand les gens, je vois que des fois, ils auraient tendance à oublier que l'épine, ce n'est qu'un support, c'est Jésus qui est avec. Ben, je leur dis, je leur explique. En principe, ils acceptent.
On a fait du chemin depuis ce que vous avez lu tout à l'heure, Philippe Faureau. J'aimerais qu'on parle avec vous, Père Vincent Camanat, du message actuel du pape François sur la piété populaire. Qu'est-ce qu'il en dit ?
Nous mesurons combien le pape est proche quand il parle à la fois des périphéries et de l'expression simple de la foi. Non pas qu'il nie la pertinence des théologiens, de l'enseignement qu'il y est particulier, mais, et on l'a entendu encore récemment lorsqu'il est allé en Slovaquie au sanctuaire marial qui anime et qui rallie tout le peuple slovaque, il y a toujours de se dire participer à une expression de la foi qui rallie le plus grand nombre, et en particulier les plus simples, les plus pauvres, c'est-à-dire ceux qu'on ne met pas à côté et à l'écart, est quelque chose qui contribue à construire l'Église, à faire comprendre l'Évangile, et donc à créer une vraie proximité avec le Christ. Donc l'accompagnement, pas simplement disciplinaire, mais l'accompagnement, l'accueil, la faveur que l'on peut éventuellement donner à la piété populaire. Entre parenthèses, ça ne veut pas dire accepter tout. Et nous avons vu en particulier la façon dont le pape a accompagné au discernement sur Medjugorje. Ça demeure un sanctuaire qui peut prêter à controverse. La façon dont le pape a considéré, a avancé, c'est-à-dire à la fois du point de vue pastoral, du point de vue spirituel et du point de vue théologique. Et donc il a permis que ça soit un lieu de rassemblement sans se prononcer encore sur la véracité des apparitions. Donc je pense qu'il y a à la fois l'empathie du pape parce qu'il mesure ça. Et je vais vous faire une petite anecdote. Vous savez que le pape Benoît XVI a démissionné le 11 février 2013. Le 11 février, c'est Notre-Dame de Lourdes, mais c'est aussi les accords de Latran. Et avec le décalage horaire, puisqu'il c'était midi à Rome, lorsqu'il a annoncé sa démission en latin, il était plus tôt à Buenos Aires, et il s'avère que nous avons un sanctuaire de Lourdes, Notre-Dame de Lourdes, à Buenos Aires. Et le cardinal Bergoglio était à Lourdes, à célébrer au sanctuaire de Lourdes la fête, et ils avaient donc appris la démission du pape Benoît XVI, et une personne, toute simple, était venue prier aussi, et lui dit au cardinal Bergoglio, « Ah ben c'est vous le prochain pape !» C'est une expression, on peut dire, de piété populaire ou d'élan. Et finalement, elle a été un peu l'ange qui a permis peut-être au cardinal Bergoglio de prendre conscience que ça pouvait aussi lui arriver. Et la chose est arrivée à ce moment-là.
Je trouve que plus on vous entend, tous les trois, plus on va vers cette acception de la piété populaire qui rassemble. Et qui nous éloigne de ce côté un peu méprisant. Populaire, c'est quoi? Le peuple? C'est bizarre aujourd'hui, même d'entendre cette formule de piété populaire, j'ai envie de dire, en travaillant dessus pour faire cette table ronde. Je me suis dit, mais est-ce que c'est encore la bonne formule, Philippe Faureau?
Je crois effectivement que dans la piété populaire, il y a un phénomène très important, c'est la sociabilité que cela crée. Il me semble, mais bon, c'est discutable peut-être, que le christianisme se vit rarement seul. Nous avons la tradition des ermites. Enfin, globalement, le christianisme, me semble-t-il, se vit de manière communautaire. Et donc, il y a des phénomènes de piété populaire liés à un pèlerinage, à un sanctuaire, qui ont l'avantage de se vivre en communauté. Et ça, je crois que c'est, dans la longue histoire du christianisme, quelque chose d'extrêmement important. Nos ancêtres, et encore je crois aujourd'hui, ne partaient pas seuls en pèlerinage. Ils y allaient en groupe, d'abord pour se protéger, pour se soutenir, et donc pour créer communauté. Donc effectivement, c'est quelque chose d'important. Il me semble aussi que, tout de même, puisque dans un congrès mission, on réfléchit à la manière de revitaliser, de redonner un élan au christianisme, en particulier dans sa forme catholique pour nous, aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, il va falloir quand même jouer sur plusieurs tableaux. Je ne crois pas que l'on puisse revitaliser uniquement avec la piété populaire. Pour une raison simple, c'est qu'il faut qu'il y ait du peuple. Eh oui. Or, nous sommes quand même de moins en moins nombreux. Donc, il me semble que cette piété populaire ne pourra véritablement atteindre son objectif que si les gens aussi réapprennent, par exemple, les Écritures. Parce que, effectivement, parmi ceux qui ont visité à Libourne l'église où se trouve la Sainte-Épine, est-ce qu'ils connaissent la Passion ? Est-ce qu'ils savent pourquoi il y a la couronne d'épines ? Est-ce qu'ils ont lu les évangiles qui font allusion à la couronne d'épines ? Et c'est là où, me semble-t-il, on ne peut pas se contenter que de la piété populaire. Il faut essayer de refaire lire les Écritures, les Évangiles, et plus largement. Parce que, vous le savez comme moi, le grand risque face auquel nous sommes, c'est la rupture culturelle. Et on pourra leur montrer Marie, une épine, une relique, un beau tableau du Christ ressuscité. S'il y a rupture culturelle, ils le verront comme nous voyons les temples égyptiens de Memphis. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est le risque. Et c'est là où, effectivement, il faut faire un effort considérable. Et je finis par une petite anecdote qui m'avait marqué. J'amène, il y a 2 ans, mes étudiants de l'université au couvent des Dominicains, dans le cadre donc de ce cours « Religion et culture ». Ils devaient faire un travail sur les Dominicains, la vie dominicaine, etc. Nous visitons le couvent, la bibliothèque, et nous assistons à l'office de midi. Et pour certains, c'était visiblement la première fois. Et il y a un de mes étudiants qui était à côté de moi, au moment de la communion, il me dit « Monsieur Faureau, qu'est-ce qu'il mange comme galette ?» Rupture culturelle absolue. Et c'est là où, effectivement, la piété populaire ne peut pas suffire à elle-même. Il va falloir, effectivement, d'abord revenir aussi aux Écritures.
Donc elle pousse à l'évangélisation. Vous avez le texte de la Passion en main quand vous faites visiter votre église et que vous allez devant la chasse de la couronne, de l'épine ?
Non, je ne l'ai pas. Par contre, ça m'arrive de faire visiter aussi à des écoles publiques, des lycées. Et alors là, j'ai 90% des jeunes qui ne connaissent rien. Là, je suis obligée d'en parler. Je suis obligée de leur expliquer pourquoi une couronne, pour comment la Passion du Christ, quoi tout. Et là, c'est marrant parce qu'il y a un gosse une fois qui m'a dit « Oh, mais alors cette épine, elle vaut cher, hein ?» Voilà, bon, c'est le... Mais oui, et ça, c'est quelque chose que je fais de plus en plus. Vous voyez, quand je vous disais que j'ai évolué avec cette épine, c'est peut-être aussi avoir la réaction des gens, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, hein, j'ai de tout. Mais c'est vrai que c'est là où ça m'a fait évoluer énormément, oui.
Que vous vouliez prolonger, non ?
Ajouter. Oui, je pense, oui. Je sais pas que je veux être plus optimiste. Mais je considère que la piété populaire peut être un lieu d'évangélisation, même quand la culture et la référence au christianisme s'est amenuisée durablement, voire même sur plusieurs générations. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir une proximité, une simplicité, à partir de laquelle on peut toucher quelqu'un. Vous voyez... quand il y a un certain nombre de processions, qu'elles soient traditionnelles ou qu'elles soient remises en évidence, et on le voit dans telle ou telle fête paroissiale ou locale, quand il y a des rassemblements où chacun peut rentrer sans forcément entrer dans une église et dans un rite prolongé auquel il n'est pas habitué. Et c'est vrai qu'à Lourdes, on le voit beaucoup. Ça m'avait frappé l'an dernier, où justement quand il n'y avait pas beaucoup de pèlerinage, autour de la fête du 15 août, l'immense majorité des gens qui étaient à Lourdes le 15 août étaient venus un peu en observateur comme ça, et donc avaient besoin d'apprendre. Et quand ils viennent auprès de vous, il y a quelquefois des choses simples. Une anecdote, une fois à Lourdes, s'approche de moi des personnes pour faire bénir, alors c'est faire des objets, on peut tout bénir, hein, je vous assure, tout ce qui a été éventuellement acheté dans tel magasin. Il s'avérait, bon, c'était à la fois des objets de piété. Et puis la personne que j'avais en face de moi, son visage me dit quelque chose. Et puis, à ce moment-là, j'ai dit, je la reconnais, j'ai dit, mais vous êtes une artiste? Et alors, elle me répond, oui. Et elle était entourée de sa famille, elle avait déjà un certain âge, c'était Yvette Horner, vous savez, l'accordéoniste. Alors, on la reconnaissait parce qu'elle avait une chevelure assez... Elle n'était pas colorée cette fois-ci. Eh bien, c'est là où je me suis dit, dans la simplicité, dans l'histoire des gens, il y a des personnes qu'on voit, hein, et il y a des personnes qui sont touchées. Un autre exemple... Gad Elmaleh, qui est juif, est venu à Lourdes puisqu'il a contribué au financement du spectacle Bernadette. Et il est venu y assister il y a 2 ans pendant notre pèlerinage. Et puis pour le provoquer un peu, une des jeunes hospitalières lui dit « Bon, c'est bien de venir au spectacle, c'est bien de venir à Lourdes, mais enfin, il faudrait que vous voyiez aussi comment on fait, l'accueil des malades. » Il est venu dans un accueil, l'accueil Saint-Fray, il est allé visiter des malades et voici qu'il a été touché. Parce que de voir à la fois les malades et des jeunes qui gratuitement servent. Et donc il a été questionné dans sa vie, dans l'expression aussi, tu sais, mais qu'est-ce que c'est qui se passe? Et il est revenu après avec son fils pour lui dire, ben, regarde aussi ce qui se passe. C'est là où je me dis, il y a dans l'expression d'une piété populaire une dimension missionnaire à laquelle il faut être vigilant. À la fois pour les excès, hein, donc des superstitions, mais à la fois par le message que l'on peut transmettre à des personnes qui ne sont pas encore entrées dans la compréhension complète du christianisme et entre autres des évangiles, de l'évangile du Christ, mais qui ont besoin pour eux de petites voies d'accès. Et je pense qu'un certain nombre d'actes de piété peuvent être ces voies d'accès, ces demi-marches qui permettent d'aller vers le Christ.
Je voudrais qu'on fasse un petit focus sur les jeunes, parce qu'il y a dans l'Assemblée des membres d'aumônerie qui ont une longue expérience, qui auront peut-être des choses à dire dans les questions. De vos expériences à vous trois, comment est-ce que cette piété est active chez les jeunes?
On n'est pas sans voir. Mais je le pense, c'est la spontanéité. En quoi, des fois, des gestes spontanés qui semblent naturels permettent à des jeunes de se trouver à l'aise. Et on voit, à la fois par des prières habituelles, la prière du chapelet, méditée, modernisée, rendue sans doute plus joyeuse, moins peut-être répétitive, que ce soit aussi... des temps d'adoration qui ont besoin aussi d'un contexte, chose qui avait été pendant un temps, justement, on disait il y avait trop de falabas, mais bon, où on permet. Et ensuite, aussi, la transmission, des fois, qui peut se faire de la grand-mère au petit-enfant, parce que justement, entre les deux, les parents ont pu laisser tomber un certain nombre de gestes. Et puis, prenons l'exemple, ça m'est arrivé, je le dis, quand à un moment donné, vous allez prier dans une église, vous y allez avec votre mère ou avec votre grand-mère, et à un moment donné, on vous dit, ben, tiens, pour continuer ta prière dans un lieu qui n'est pas forcément celui où tu viens, tu vas déposer un lumignon et ta prière va demeurer ici et va illuminer ce lieu. Je crois à un moment donné, c'est quelque chose de tout simple,
mais qui fait qu'on comprend et on fait le lien ensuite peut-être de créer un même lieu chez soi, un lieu de prière. Et finalement, le mignon n'est pas qu'une petite lumière qui s'éteint, c'est une étincelle qui prend écho dans tant d'autres lieux.
Merci pour cette lumière. Alors, autre aspect positif de la piété populaire, c'est qu'elle peut être un trait d'union avec, chez vous, la municipalité, à Lourdes probablement aussi. Catherine Gaiotto, vous avez vraiment reçu le soutien de votre maire pour embellir votre église, enfin tout ça autour de la couronne, alors que vous me disiez, c'est pas quelqu'un du monde chrétien.
Non, c'est pas quelqu'un de chrétien, même s'il m'a dit, j'ai reçu une éducation religieuse puisque j'ai été baptisée, j'ai fait ma communion, mais je me suis éloignée. Mais ça n'empêche, à force, je l'ai un peu harcelé quand même. Ça fait 10 ans que je le harcèle pour lui dire qu'il faut qu'il fasse quelque chose pour notre église, que nous sommes le monument le plus visité de Libourne, qu'il y a des gens qui viennent de partout pour voir cette Sainte-Épine, que bon, cette année, il nous a débloqué 15 millions d'euros et nous allons attaquer une rénovation complète de l'église. Ce qui n'est pas simple. Ce qui n'est pas simple et tout se discute. L'éclairage, faut pas le. Lui, il aurait tendance à faire un éclairage qui serait plus touristique, on va dire, que nous, on aurait envie d'un éclairage plus religieux. Qu'il aurait. Enfin voilà, il faut tout discuter. Hein.
Mais il y a un dialogue.
Comment ?
Il y a un dialogue qui s'est
instauré. Il y a un dialogue. Il nous écoute. Il veut absolument nous entendre. On a des réunions. On en a souvent, même en ce moment. Mais bon, il y a un dialogue, oui. Mais je dois dire qu'à Libourne, on est une communauté, une paroisse très vivante, avec beaucoup de monde. On a des prêtres jeunes depuis déjà plus de 10 ans. Ça dynamise tout ça. Beaucoup de jeunes. Il y a quelques vieux, hein, parce que j'en fais partie. Mais il y a beaucoup de jeunes. Et beaucoup de monde. Nous, nos processions, là, celle que l'on a fait le 24 juin, il y avait 150 personnes derrière. Il y avait beaucoup de monde. Et ça portait bien, quoi. Alors après, il faut savoir, comme vous dites, accueillir ces gens, les accompagner. Il y a du gros travail derrière à faire, effectivement.
Un petit mot sur les relations entre le pèlerinage de Lourdes et la municipalité ?
Le maire de Lourdes, qui a été élu, est très volubile, donc il favorise les relations. Non, plus exactement, j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi le préfet et les autorités cet été. La ville de Lourdes ne serait pas du tout la même sans la réalité du sanctuaire. Et donc, Mgr Ribadeau-Dumas, Mgr Héroir et toutes les autorités religieuses sont bien entendu en lien étroit pour participer. Pas simplement au relancement économique, mais au rayonnement à partir du sanctuaire de ceux qui peuvent se vivre à Lourdes. Et je pense qu'il est toujours important, justement, tout en distinguant les genres, hein, ce qui est une vraie collaboration pour que l'accueil se fasse et soit favorisé à la fois pas simplement du point de vue hôtelier, restauration, etc., circulation, sécurité, mais qu'il y ait un minimum d'adéquation entre la proposition qui est faite dans un sanctuaire comme Lourdes, qui accueille et qui est en lien avec des pèlerinages ou des pèlerins qui y viennent, et les autorités locales qui sont censées prendre en considération. Il y a souvent eu une tradition radicale socialiste, un peu franc-maçonne à Lourdes aussi, on se tient un peu à distance. Pour autant, à un moment donné, Lourdes ne serait pas Lourdes sans les apparitions.
Philippe Foureau.
Oui, je voudrais éventuellement témoigner aussi, alors ce n'est pas avec une municipalité, mais comment un chrétien peut être perçu dans une université d'État, puisque j'enseigne à l'université Jean Jaurès. Et à vrai dire, je ne me suis jamais caché d'être chrétien. Hein, pour vivre heureux, vivons cachés. En l'occurrence, ça peut se discuter. J'ai toujours essayé de témoigner de ma foi chrétienne dans un milieu universitaire qui, en règle générale, je dirais, ne l'est pas tellement. Bon. Et c'est là où peut-être, effectivement, on a quand même notre rôle à jouer. D'abord, les jeunes de l'aumônerie des étudiants, parce qu'il y a une aumônerie, mais qui est une aumônerie qui est à la fois n'est pas clandestine, mais n'a pas de salle. Et j'en ai parlé un jour à l'ancien président, qui m'a dit, mais si je t'accorde aux catholiques une salle spéciale, mais il va falloir que j'en accorde à tout le monde. Et ce qu'ils redoutent, c'est effectivement d'avoir éventuellement quelques ultra-musulmans qui demandent, parce qu'il ne faut pas se cacher, c'est la crainte, c'était la crainte du président. Il a dit « je ne crains pas trop les cathos ou les protestants, mais ça peut être plus ennuyeux pour d'autres ». Et donc, il n'y a aucune salle. Alors on se débrouille, j'ouvre ma salle de cours. Et puis, ce qui m'avait frappé, et c'est là où je me suis dit « là, peut-être que tu as été utile à ce moment-là, dans cette université », lors de mon ordination, j'avais invité des collègues. Le président de l'époque est venu, alors qu'il n'est pas croyant. Mais il est venu. Et j'avais de très nombreux collègues qui sont venus. Et puis ils sont venus me voir après, à l'université. Tu sais, j'en suis moi aussi. Je vais à la messe à tel endroit. Un autre me dit, moi je fais de la catéchèse. Bon, donc j'étais pas totalement seul. Et puis, dernier point, quelques mois après mon ordination, le directeur du département d'histoire me demande de passer à son bureau. Et puis, mais j'ai à te parler. Bon, on s'enferme dans le bureau, et puis il n'est pas croyant. Il me dit, voilà, je voulais te voir parce que depuis plusieurs mois, je n'arrive pas à pourvoir un poste, le responsable des étudiants handicapés dans le département. Personne ne veut y aller. Et alors toi, peut-être que je connais tes engagements. Enfin, voyez, on tournait autour du pot. Il m'a dit, est-ce que tu accepterais de t'occuper de nos handicapés ? Eh bien, je lui ai dit oui, parce que je me suis dit, si un diacre dit non, c'est la fin du monde. Enfin, je veux dire, par là, on ne sert plus à rien. Enfin, si on ne témoigne pas à ce moment-là. Et donc, la force du témoignage dans une université peut compter aussi. Il ne faut pas se cacher. Il faut être, je dirais, dans la simplicité et dans le témoignage bienveillant.
Merci pour ce témoignage. Dans les minutes qui nous restent, moi j'ai envie de vous proposer à tous les trois d'encourager notre public à regarder, écouter cette piété populaire, l'évangéliser au besoin ou la rendre évangélisatrice. Hein, voilà, oser.
Oui, je vais prendre, je veux dire, la foi chrétienne n'est pas réduite, on ne va pas la réduire à des rites, même si elle s'exprime dans des rites. Elle n'est pas qu'intellectuelle, même s'il est toujours nécessaire d'approfondir notre foi et de pouvoir l'exprimer et l'approfondir et d'avoir une vraie légitimité dans le monde intellectuel, culturel. C'est-à-dire qu'il y a ces extrêmes qui ne sont pas des tensions simplement, mais qu'il faut aussi accepter, c'est-à-dire le Christ parle à tout le monde. Et le langage du Christ est universel, c'est le sens du mot catholique. Donc notre mission, c'est de trouver tous les moyens qui nous permettent de nous faire entendre, de faire entendre le Christ, de donner écho à la parole et à la présence du Christ, pour qu'elle soit portée le plus universellement possible. Et je considère que la piété populaire est une des langues possibles, une des voies possibles d'accès au Christ.
Catherine ?
Oui, moi je vais être d'accord avec vous, bien sûr. C'est ce que je pratique depuis 10 ans. Moi, je suis incapable d'évangéliser, je ne sais pas, de dire « venez chez les cathos, vous allez voir, c'est super, le Christ, il est bien ». Ça, je suis incapable, je ne sais pas faire. Par contre, moi, la Sainte Épine, c'est un support. Et ça m'aide à entrer en conversation avec les gens et peut-être arriver à faire passer un message, oui. Moi, j'ai besoin de ça. Mais chacun fait comme, je sais pas. Moi, je suis pas, j'ai pas fait de théologie, moi. Je suis vraiment la paroissienne lambda qui est tombée sur cette sainte épine et qui a, voilà, qui est parti dans quelque chose, mais je ne ferai pas de grosses discussions comme vous pouvez faire.
Je crois que c'est ça qui est intéressant. Comme vous dites, vous êtes une paroissienne. Voilà,
voilà, c'est tout. Moi,
vous êtes vous.
Mais c'est un bon support. Moi, je le vois comme ça pour moi, cette épine. C'est un support qui m'a fait moi-même évoluer, qui me permet d'entrer en lien avec d'autres et de les faire réfléchir, de leur parler. Et ils reviennent, on reparle. Vous savez, il y en a, je passe des fois une heure, une journée, puis 15 jours après une heure, puis après je ne les vois pas pendant 6 mois, puis ils reviennent, qui rentrent dans le rang, vous vous rendez compte, qui viennent, non, mais parce que je vous vois là tous en ligne, c'est pour ça, non, mais qui viennent à l'église après, mais ils mettent du temps, hein. Je ne sais pas si je fais assez bien, mais ils mettent du temps, mais ils y viennent, et puis ils continuent leur chemin.
Et Philippe ?
Oui, je crois qu'il y a plusieurs maisons dans la demeure du Père. C'est-à-dire qu'effectivement, la présence chrétienne aujourd'hui, dans les conditions que nous connaissons, passe par une multitude de choses, effectivement. Et je rejoins tout à fait l'idée qu'il faut cultiver cette diversité. Réfléchir sur le christianisme, c'est participer à cette sociabilité que peut représenter la piété dite populaire, mais au sens qui touche le plus grand nombre. Ça peut effectivement toucher l'intellect et réfléchir sur l'histoire, sur la théologie, etc. C'est aussi, et je crois que dans notre monde, c'est fondamental, c'est la manière dont on va témoigner parce qu'on nous regarde. Je veux dire par là qu'on regarde le chrétien. On lui dit, mais toi, tu crois, tu as des textes sur lesquels repose ta foi, mais est-ce que tu la pratiques vraiment? Est-ce que tu es en accord avec ce que tu crois? Et voyez, nous allons sans doute vivre une épreuve à partir de mardi prochain, le fameux rapport sur la pédophilie. Je pense que ça va nous être rude, difficile. Eh bien, il va falloir, je dirais, le prendre avec courage, assumer cette catastrophe, car ce fut une catastrophe, mais essayer de dire le christianisme, ce n'est pas seulement cela. Et c'est notre témoignage, notre manière dont la société va nous regarder dans notre quotidien, qui va peut-être, avec des efforts, essayer de corriger l'impression que sans doute l'opinion publique a et aura suite à ce rapport que nous attendons mardi.
On va terminer, je vais juste lire une toute petite phrase du pape François dans son exhortation apostolique Evangelii Gaudium. Pour comprendre cette réalité, donc de la piété, j'ai presque plus envie de dire populaire, mais à chaque fois il faut effectivement préciser que c'est au sens de rassembler, hein, mais c'est pas toujours pris comme ça. Pour comprendre cette réalité, il faut s'en approcher avec le regard du bon pasteur qui ne cherche pas à juger, mais à aimer.
Congrémission 2021.
Congrémission 2021.
Congrémission 2021, table ronde.